Frères et sœurs, bienvenue. C'est bon d'être avec vous au cours de cette fête des tabernacles. Imaginez-vous, déjà une année est passée. Nous attendions cet événement depuis 12 mois. Finalement, nous y sommes. Nous sommes en train d'honorer notre Dieu. Nous nous présentons à sa présence aujourd'hui pour l'honorer, pour l'adorer. Nous sommes ici à la fête pour apprendre davantage concernant ce grand événement qui est tout proche, le retour de Christ et son règne millénaire sur la terre. Ses saints vont régner avec lui. Frères et sœurs, nous sommes appelés à cet événement. Nous sommes appelés en vue de cette époque que nous attendons avec enthousiasme. Le monde, malheureusement, ne le sait pas. Regardez l'image derrière moi. C'est la ville de Jérusalem, une ville tourmentée depuis des millénaires, et qui le sera encore davantage d'ici le retour de Christ et au moment même du retour du Christ. Dieu nous a appelés à sortir de ce monde. Il a ouvert notre esprit pour voir quelque chose de nouveau, quelque chose de spécial, pour voir la potentialité extraordinaire que nous avons. Dieu veut que nous faisions partie de son royaume. Paul en parle comme étant notre espoir, un espoir comme une ancre que nous avons dans l'âme et qui nous tient avec ce qui s'en vient, qui nous garde en rapport avec ça. Et ça nous aide à rester attachés à la vérité. Frères et sœurs, sur quel genre de société allons-nous régner? Pour les êtres humains qui vont vivre à ce moment-là, ce sera une société tout à fait différente. À quoi est-ce que ça va ressembler? Pour les gens qui vont être encore physiques à ce moment-là, quel genre d'emploi, de profession existera dans le royaume de Dieu au cours du millénaire? Quels détails la Bible nous donne-t-elle sur ces aspects spécifiques de la société divine du millénium? Aujourd'hui, j'aimerais vous décrire cette société divine du millénium qui vient pour que ce soit plus réel pour vous. Et jeunes gens, je veux que vous soyez capables de le voir dans votre esprit, et même d'y goûter, pour ainsi dire, et vous tous qui êtes à l'écoute aujourd'hui. J'aimerais qu'après le sermon, aujourd'hui, vous ayez une idée plus claire du rôle et des responsabilités que chacun de nous allons avoir dans le royaume de Dieu, dans le merveilleux monde qui approche. Allons à psaume 119, s'il vous plaît. Psaume 119. Nous allons lire à partir du verset 97. Ici, le psalmiste écrit et admire la loi de Dieu. En fait, tout le chapitre 119 acclame la loi de Dieu, pour ainsi dire. Verset 97, David dit ceci: « Combien j'aime ta loi! Combien j'aime ta loi! » Nous avons un cantique à ce sujet. « Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. » Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. Pensez à ça un instant. Il y a deux aspects majeurs de ce que nous venons de lire. D'abord, la loi de Dieu. David dit « Comme j'aime cette loi ». L'autre aspect, c'est la méditation, réfléchir à ces lois. David le faisait tout le jour, pour ainsi dire. Jeunes gens, et vous aussi qui êtes plus avancés en âge, vous tous qui m'écoutez, si on vous demandait de méditer à la loi de Dieu durant toute la journée, comment vous réagiriez? Comment je peux faire ça? Il y a tellement d'autres choses à faire. Si je vous demandais de méditer la loi de Dieu toute la journée aujourd'hui à la fête, vous allez dire, « Ah, peut-être je vais manquer des activités, il y a tellement de choses à voir et à faire. Je ne veux pas passer toute la journée à penser à ça. » Frères et sœurs, la loi de Dieu est un pivot de la signification de la fête des tabernacles. Et on peut la méditer tout le jour en référant à ça à mesure que nous vivons nos activités. Dr. Meredith en a parlé plusieurs fois. Il nous a dit, si nous ne faisons que lire la Bible, mais que nous ne méditons pas, nous manquons un aspect majeur de notre démarche chrétienne. Il faut méditer pour que les voies de Dieu soit vivante dans notre esprit, que ça devienne réel pour nous. Aujourd'hui, j'aimerais que vous méditiez avec moi. En fait, mon sermon est un exercice de méditation. Nous allons réfléchir à la loi de Dieu, à ses commandements, notamment en ce qui concerne ce qu'en dit l'Ancien Testament. C'est un peu un défi que je vous lance. Suivez-moi dans cette démarche. Nous allons méditer et nous allons admirer les voies de Dieu. Nous allons réfléchir à ses lois, à ses statuts. Utilisez votre imagination. Comprenez ce que Dieu veut de bien pour les êtres humains par ses lois. Ça va devenir de plus en plus réel pour vous. Au cours de toute cette fête, nous allons apprendre davantage sur les voies de Dieu et concernant les voies de vie de Dieu. Nous allons voir comment le royaume sera. Nous allons parler des animaux qui seront rendus doux. Nous allons parler de la parole de Dieu qui va remplir la terre entière. Nous allons parler de la paix que le Christ va établir. Nous allons parler du règne du Christ qui va régner avec justice et miséricorde, mais bien sûr avec fermeté. Nous allons parler de tous ces aspects dans le contexte de la fête des tabernacles. Et toutes ces choses vont rendre le royaume, pour ainsi dire, plus réel pour nous. Frères et sœurs, le sermon d'aujourd'hui s'adresse à tous. Chacun de nous a besoin de saisir la vision du royaume pour que ce soit plus réel. Pourquoi est-ce que l'esprit humain est ennemi de Dieu, comme dit Romains 8, verset 7, et que l'esprit humain ne veut pas et ne peut pas se soumettre à la loi de Dieu? La réponse à cette question, c'est parce que sans la compréhension des lois de Dieu, de ses statuts, de ses ordonnances et son Saint-Esprit, nous ne pouvons pas avoir une vision claire du royaume de Dieu. Sans la loi, sans les statuts, sans ce que Dieu décrit, notamment dans l'Ancien Testament, on ne peut saisir la portée de son plan et on ne peut pas jeter un coup d'œil vraiment dans ce que sera le royaume de Dieu. Satan a orchestré la société actuelle pour éloigner les gens de Dieu et de ses lois. Il fait croire aux gens que les commandements ont été cloués à la croix. Alors, il a enlevé les lentilles par lesquelles nous pouvons voir le royaume. Et les êtres humains qui ne sont pas appelés ne voient pas ce qu'est le royaume. Ils ont éliminé la loi. Ils n'en tiennent pas compte. Ils n'y croient pas. Frères et sœurs, vous allez voir aujourd'hui qu'avec la loi de Dieu, par son Saint-Esprit, nous pouvons voir la vue d'ensemble et ça nous encourage. On peut y penser, y réfléchir. Allons à Ézéchiel, chapitre 37. Ézéchiel, chapitre 37. Nous allons lire à partir du verset 24. C'est un chapitre que nous allons lire lors du dernier grand jour de la fête. Ce verset nous donne également un aperçu de ce qu'il y aura dans le monde à venir. Verset 24. « Mon serviteur David sera leur roi, et ils auront tous un seul berger. » David sera ressuscité à la fête des trompettes, au moment du retour du Christ, au début du millénaire. Il va régner sur les 12 tribus d'Israël et sur le pays. C'est ce que Dieu a en tête pour lui. Il va régner sur des gens physiques. Ils suivront mes ordonnances, voyez-vous, ils observeront mes lois et les mettront en pratique. Durant le millénium, les êtres humains physiques vont vivre selon les ordonnances de Dieu, selon ses statuts, selon ses lois, à mesure que nous allons leur enseigner. Allons dans Zacharie, Zacharie chapitre 14. Nous allons lire à partir du verset 16. C'est un passage qui parle de la fête des tabernacles et qui indique que la fête des tabernacles sera célébrée durant le millénium, même après le retour de Christ. Voyez-vous, la fête des tabernacles ne sera jamais abolie. Nous allons continuer à célébrer la fête qui représente le millénium, le règne millénaire du Christ, son premier mille ans de règne. Voyez-vous pourquoi Dieu s'attend à ce que nous observions les fêtes aujourd'hui? Il n'a jamais rejeté ses fêtes, il n'a jamais éliminé ses fêtes, absolument pas. Il n'a jamais aboli ses fêtes. Zacharie 14 et le verset 16. « Tous ceux qui resteront de toutes les nations venues contre Jérusalem, les nations qui se seront opposées au Christ lors de son retour, il y a des gens qui auront survécu et qui seront encore des êtres physiques au début du millénaire. Ils auront passé à travers la grande détresse. Ils monteront chaque année pour adorer le roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles. C'est un des statuts de Dieu, la fête des tabernacles. Les jours de fête de Dieu sont des statuts de l'Éternel. Verset 17, s'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour adorer le roi, l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elles. Alors Dieu mettra une pénalité, une amende à payer sur les gens qui ne voudront pas célébrer la fête des tabernacles. L'inverse est vrai également. Lorsqu'ils voudront célébrer la fête des tabernacles, ils seront bénis, ils auront des récoltes abondantes et la pluie en sa saison. Continuons. Si la famille d'Égypte ne monte pas, si elle ne vient pas, la pluie ne tombera pas sur elle. Elle sera frappée de la plaie dont l'Éternel frappera les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. Ce sera le châtiment de l'Égypte, le châtiment de toutes les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. Dieu s'attend à ce que ces statuts soient respectés dans le monde à venir et que ces fêtes soient célébrées. Verset 20. En ce jour-là, il sera écrit sur les clochettes des chevaux, sainteté à l'Éternel. Et les chaudières dans la maison de l'Éternel seront comme les coupes devant l'autel. Toutes les chaudières à Jérusalem et dans Juda seront consacrées à l'Éternel. Qu'est-ce qui va se produire? Il y aura des clochettes de placer sur les chevaux. Et sur chacune de ces clochettes sera inscrite l'expression « sainteté à l'Éternel ». Pourquoi? Pour quelle raison? Ces clochettes vont sonner. Pourquoi est-ce que Dieu demande cela? Quel est le but? Quand ces clochettes sonneront, les êtres humains se verront rappelés d'adorer le Créateur, de penser à lui, d'apprécier ce qu'il a fait, d'apprécier ce que le Christ fait. Sainteté à l'Éternel. Parce qu'il y aura de la paix, de l'abondance, un monde merveilleux. Et chaque fois que les clochettes sonneront, que les gens les entendront, ils réfléchiront à ces choses-là. Ça nous donne un petit aperçu de ce qui se passera dans la société du monde à venir. Si vous mettez des clochettes sur un cheval et que vous l'envoyez au pâturage, peu de gens vont entendre le son de ces clochettes, sinon les autres animaux autour ou le propriétaire qui va faire un tour de temps à autre. Mais il n'y aurait pas grand profit. Pour que ça profite aux gens, pour que les gens soient incités à adorer Dieu et à apprécier le monde à venir, il faudra que les chevaux soient proches des gens. Ils seront autour des êtres humains. Ils seront près d'eux. Nous n'irons pas simplement nous asseoir dans les champs pour écouter les clochettes. Non, les chevaux feront partie de la société pour labourer, pour tirer des charges et ainsi de suite. Et ça va faire partie intégrante de la société. Donc, les clochettes se feront entendre de toutes sortes de façons, à toutes sortes de moments. Et cette expression sera un rappel constant, pour ainsi dire, sainteté à l'Éternel. Nous voyons donc une société où les animaux seront plus présents. Ce sera tout à fait différent du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Combien d'entre nous vivons proches de chevaux aujourd'hui? Que ce soit dans le monde développé ou dans les nations du tiers-monde, dans le monde à venir, ce sera différent et la société sera tout à fait autre que celle que nous voyons aujourd'hui. Allons dans Ésaïe, chapitre 2, Ésaïe chapitre 2. Nous allons revoir ce verset-là au cours de la fête des tabernacles, bien sûr, parce que c'est une clé. Ésaïe 2 et le verset 2. Ça nous donne une vision du millénium ici. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel, dans les Écritures, une montagne, ça représente symboliquement un royaume. Et ici, il est question du royaume de Dieu. Que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes. Ça veut dire que le royaume de Dieu sera au-dessus de tous les royaumes de la terre. Ça nous donne cette vision de ce que sera le monde à venir. Vous vous rappelez l'image de Nabuchodonosor et à un moment donné, la grande pierre qui défait les pieds de la statue et le royaume est établi pour toujours, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront, « Venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. » Regardez bien, « Car de Sion sortira la loi. » Et de Jérusalem, la parole de l'Éternel. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leurs glaives, ils forgeront des joyaux, et de leurs lances, des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et on n'apprendra plus la guerre. Voyez-vous la merveilleuse description du monde à venir? Quand la loi de Dieu couvrira toute la terre, on peut voir dans Ésaïe 11, verset 9, il est dit que la connaissance de l'Éternel, ses lois, ses voies, seront répandues sur toute la terre, comme l'eau actuellement couvre le fond de la mer. La société sera entièrement changée. Nous verrons les armements changer en éléments d'agriculture, en outils pour travailler la terre. Les économies des nations seront changées. Si vous êtes à un endroit où il y a des ruisseaux ou une rivière proche, ou si vous êtes proche de l'océan, prenez le temps de vous asseoir près de l'eau, soit au lever du soleil le matin ou au coucher du soleil le soir, et pensez à ces choses-là. Regardez cette eau et imaginez-vous que la parole de Dieu, sa vérité, ses lois, ses statuts, ses ordonnances seront connues graduellement sur toute la terre et qu'à un moment donné, ça couvrira toute la terre comme les eaux couvrent le fond de la mer entièrement. Vous allez réaliser que c'est vaste, que c'est énorme. C'est extraordinaire. Ça va changer toute chose. Quelle époque merveilleuse! Vous et moi sommes appelés pour régner sous le Christ à ce moment-là en tant que roi et enseignant. Pour enseigner les voies de Dieu. Nous allons travailler avec les êtres humains, avec ceux qui auront appris à tout faire de travers et à souffrir énormément. Nous allons leur montrer la voie qui mène au bonheur. Nous allons travailler avec eux. Nous allons leur montrer, nous allons leur dire, voici la voie à suivre. Voici la voie à suivre pour avoir l'abondance et le bonheur. Nous serons capables de les encourager. Nous allons leur dire, choisissez cette voie. Ce sera une époque, comme on voit dans Ésaïe 30, verset 20, où les gens verront leurs enseignants. Notre enseignant, c'est Dieu. Mais est-ce que nous le voyons chaque jour? Non, on ne le voit pas lui-même. On ne peut pas le toucher non plus. Nous n'avons pas cette possibilité maintenant. Mais dans le royaume de Dieu, les gens vont voir leur enseignant. Ils seront capables même d'avoir contact physique avec eux, de les toucher. Deutéronome, chapitre 31. Retournons à la loi. Deutéronome, chapitre 31. Voyons ce que Dieu a inspiré Moïse d'écrire ici. Deutéronome 31 et le verset 9. Moïse écrivit cette loi et la remit au sacrificateur, fils de Lévi, qui portait l'arche de l'Alliance de l'Éternel, et à tous les anciens d'Israël. Moïse leur donna cet ordre. Tous les 7 ans, remarquez le commandement, tous les 7 ans, à l'époque de l'année du relâche, à la fête des tabernacles, nous allons parler de cette année du relâche bientôt. Quand tout Israël viendra se présenter devant l'Éternel à la fête des tabernacles, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira, tu liras cette loi devant tout Israël en leur présence. Tu rassembleras le peuple, les hommes, les femmes, les enfants et l'étranger qui sera dans tes portes, afin qu'elles entendent et afin qu'elles apprennent à craindre l'Éternel votre Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi. Et leurs enfants, qui ne la connaîtront pas, l'entendront et ils apprendront à craindre l'Éternel votre Dieu tout le temps que vous vivrez dans le pays dont vous prenez possession après avoir passé le Jourdain. Quel est le commandement? Chaque septième année, à la fête des tabernacles, au lieu que Dieu a désigné comme site de fête, la loi de Dieu devait être lue mot à mot à tous les gens pour qu'ils apprennent à craindre Dieu et pour que la génération plus jeune, qui ne l'avait pas apprise, puisse l'apprendre, qu'il soit enseigné. Il y a une autre raison pour laquelle la loi de Dieu doit être lue à la fête des tabernacles. Pourquoi à la fête des tabernacles? Pourquoi ne pas l'avoir fait lire à la fête des pains sans levain alors que nous devons sortir les transgressions de la loi de nos vies et revêtir l'homme nouveau en vivant selon les lois de Dieu? Est-ce que ce ne serait pas plus logique de lire la loi de Dieu à la fête des pains sans levain? Non, Dieu dit, on peut la lire bien sûr à la fête des pains sans levain, mais Dieu dit ici, lisez-la chaque septième année au complet à la fête des tabernacles. Écoutez, qu'est-ce que la loi et les statuts ont à faire avec la fête des tabernacles et le monde à venir? Qu'est-ce que ça nous enseigne à propos du millénaire? Allons à Jacques chapitre 2. Jacques chapitre 2. Jacques chapitre 2. Nous allons lire à partir du verset 5. Ici, Jacques nous donne un aperçu de cette loi que plusieurs ont rejetée, que plusieurs pensent être cloués à la croix ou être abandonnés, ou que plusieurs voient comme étant un fardeau. Les gens disent, vous êtes libre de la loi, vous n'avez pas à obéir à la loi désormais. Qu'est-ce que Jacques en dit sous l'inspiration de Dieu? Qu'est-ce que le Christ dit concernant la loi? Jacques 2 et le verset 5. Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Et vous, vous avilissez le pauvre. N'est-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux? N'est-ce pas eux qui outragent le beau nom que vous portez? Si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous faites du favoritisme, vous commettez un péché. Vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. Allons au verset 12. Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. Par quoi serons-nous jugés? Voici ce qui est écrit sous la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament, ce qui est écrit à l'Église du Nouveau Testament. Serons-nous jugés par le Christ? Oui, ultimement, bien sûr. Mais qu'est-ce que ça dit ici? Nous allons être jugés et nous sommes jugés par une loi de liberté. Une loi de liberté. Jacques en parle, on vient de le voir, comme une loi royale et une loi de liberté. Allons à Ésaïe, chapitre 61, s'il vous plaît. Cette loi est une clé fondamentale du royaume de Dieu. Ésaïe 61, et nous allons lire le verset 1. Qu'est-ce que Dieu dit de la loi ici? L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et pourquoi? Pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Frères et sœurs, le monde est retenu captif aujourd'hui. Ils sont dans les chaînes, spirituellement pour ainsi dire, et même physiquement, sous le petit Dieu de ce monde. Ils sont en prison, ils sont pris au piège. Nous devons proclamer la liberté aux captifs et nous devons parler de cette loi d'esclavage? Non, nous devons proclamer cette loi de liberté qui va libérer ces gens, qui va libérer l'humanité. Lorsque ces lois seront observées dans le monde entier, le monde sera libre. Lorsque nous vivons selon ces lois, nous sommes libérés. C'est le contraire de ce que le monde supposément chrétien enseigne aujourd'hui. Est-ce que je suis séduit de parler ainsi? Est-ce que je suis insensé de parler ainsi? Est-ce que vous êtes séduit par Dr. Meredith et par M. Armstrong qui a enseigné ce concept? Non, absolument pas. C'est biblique. Continuons. La loi de Dieu, c'est une loi parfaite de liberté qui va libérer les captifs du monde, ceux qui sont retenus prisonniers actuellement par Satan, le diable, et par la société qu'il a construite. La société dans le monde à venir sera tout à fait différente de celle que nous voyons aujourd'hui, et les lois seront tout à fait différentes également. Posons-nous la question. Combien de lois dans la société qu'on voit autour de nous existent? Combien y a-t-il de lois dans la société autour de nous? Des milliers? Des dizaines de milliers? Des centaines de milliers? Que font les gens en charge de nos nations? On les appelle comment? On les appelle législateurs. Ils font presque chaque jour des lois nouvelles. Ils changent les lois anciennes et ajoutent d'autres lois. Dans le monde à venir, combien y aura-t-il de lois? 10 lois, les 10 commandements. Bien sûr, il y aurait des statuts qui expriment en détail ces lois-là, si vous voulez, qui sont l'expansion de ces 10 commandements. Mais qu'est-ce qui est le mieux? 10 000 lois ou 100 000 lois par rapport à 10 lois? 100 000 lois qui vous disent quoi faire et quoi ne pas faire? Ou les 10 lois de Dieu qui vous libèrent? Vous connaissez la réponse. Qu'est-ce qui est le mieux entre les deux? Allons à Exode 20. Examinons la loi de Dieu et réfléchissons un peu de quelle façon ça va libérer le monde et comment la société va changer et comment la société actuelle sera libérée. Comment les captifs dans la société de Satan seront libérés par la loi de Dieu. Pour l'instant, le monde ne comprend pas ça et trouve insensées les choses que nous disons et que nous enseignons aujourd'hui. Un jour, ils comprendront. S'ils comprenaient aujourd'hui, ils abandonneraient leur voie parce que les voies de Dieu sont tellement simples, tellement claires et tellement merveilleuses. Si les gens étaient appelés maintenant et le comprenaient, ils abandonneraient les voies de ce monde. Mais pour le moment, comme Romains 8 dit, la chair est inimitié contre Dieu. Le monde ne peut pas voir ce que nous voyons dans la loi de Dieu. Si les gens le comprenaient, ils le voyaient, ils étaient appelés, ils pourraient rejeter instantanément les voies du monde. Exode 20 et le verset 1. Nous allons jeter un coup d'œil sur la loi de Dieu, cette loi qui couvrira la terre entière lorsque nous l'enseignerons graduellement aux nations. Exode 20, verset 1. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Je suis l'Éternel. » Autrement dit, « Je suis le Dieu suprême. » Qui est cet Éternel? Allons au verset 11 du même chapitre 20. Verset 11. Car en six jours, l'Éternel, le même être, car en six jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre et la mer et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le septième jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Le même Éternel qui a donné les 10 commandements, c'est le même Éternel qui a fait le ciel, la terre et la mer. Qui est-il? Je n'ai pas le temps d'expliquer tout ça aujourd'hui, mais vous pouvez faire une recherche personnelle aujourd'hui ou demain au cours de la fête. Allez voir Colossiens 1, versets 16 et 17 et lisez la première partie de Jean 1. L'Éternel qui a créé le ciel et la terre, c'est le même dont il est question dans Colossiens 1. C'est Jésus-Christ, celui qui a créé toutes choses au ciel et sur la terre. C'est le même être. Alors, c'est lui-même qui a donné les 10 commandements. Et c'est cet être qui est devenu Jésus-Christ, le Messie, dans le Nouveau Testament. Le Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, comme c'est marqué dans les textes. vous n'aurez pas d'autre Dieu devant ma face. » Regardez le verset 3. « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Voilà le premier commandement. Aucun autre Dieu devant la face de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, dans le monde à venir, il n'y aura plus de Mahomet qui sera adoré. Il y aura seulement Dieu. Si vous enlevez ce Dieu, la religion de plus d'un milliard de musulmans disparaît. Quand vous adorez un seul Dieu, les autres dieux disparaissent. L'hindouisme disparaîtra. Ça représente plus d'un milliard de croyants sur la Terre actuellement. Vous allez éliminer l'adoration de Brahma, Vishnu et de Shiva. Et vous allez éliminer des millions de dieux hindous, parce qu'il y en a des millions. Les gens vont cesser d'adorer des vaches, les gens vont cesser d'adorer la déesse Terre, ils vont cesser d'adorer le feu, l'eau, la terre, ils vont cesser d'adorer les plantes, les arbres, ils vont cesser d'adorer des images, ils vont cesser d'adorer les Bouddhas, ils vont cesser d'adorer la connaissance, la science. Ils vont adorer un seul Dieu. Pouvez-vous imaginer un monde avec une seule religion? John Lennon a écrit un chant qui s'appelle « Imagine », sauf que lui a imaginé un monde sans religion. C'est le contraire. Actuellement, le monde s'en va vers sa destruction. Combien de guerres avons-nous connues dans l'histoire à cause des religions, des guerres religieuses? Ce sera terminé dans le monde à venir. Allons au verset 15 d'Exode 20 maintenant. Exode 20, verset 15, un autre commandement. « Tu ne déroberas point. » Pensons à ce commandement un peu. Qu'est-ce que ça veut dire ne pas voler? Imaginons-nous comment seront les choses dans une société, dans le monde à venir, quand le vol n'existera plus. Vous allez pouvoir laisser vos choses sans surveillance. Personne ne va les prendre. Qu'est-ce que ça veut dire d'autre? Il n'y aura plus de vol. Ça veut dire qu'il n'y aura plus de grillage aux fenêtres. Il n'y aura plus de serrure sur les portes. Les portes de votre maison, de votre voiture ou de votre demeure temporaire à la fête des tabernacles, vous allez pouvoir laisser votre portefeuille ou même votre ordinateur à la portée de tout le monde, et personne ne va vouloir s'en emparer. Voyez-vous, ce sera un monde tout à fait différent. Qu'est-ce que ce commandement veut dire? L'application de ce commandement veut dire? Il n'y aura plus de serrure aux portes. Qu'est-ce que ça change, frères et sœurs? Pensez un peu. Réfléchissez à tout ce que ça veut dire. Ce commandement, tout petit, a une signification incroyable et une portée incroyable dans le monde à venir. Si seulement ce seul commandement était appliqué aujourd'hui, le monde changerait de façon drastique et vous ne le reconnaîtriez même plus. Si tout le monde respectait ce commandement et qu'il n'y aurait pas de vol, bien sûr, il n'y aurait plus de serrure, plus de grillage, mais ça éliminerait les criminels, ça éliminerait les systèmes de cour de justice. Ça éliminerait quoi? Aussi les prisons où les voleurs sont emprisonnés. Ça éliminerait tous les emplois dans le système judiciaire et le système pénitentiaire. Quoi d'autre? Les emplois de serrurier disparaîtraient. Les emplois de ceux qui fabriquent des clés et tout ce qui va avec ça disparaîtrait. L'emploi de policier serait aboli. Il n'y aurait plus besoin d'avoir de police, comme ce sera dans le monde à venir. Voyez-vous comment la mise en application de ce seul commandement changerait toute la société? Vous est-il déjà arrivé de quitter la maison en oubliant de barrer la porte et vous avez été nerveux après? Qu'est-ce qui va s'en aller avec l'application de ce commandement-là? C'est que la nervosité va disparaître. On ne s'inquiétera plus. La pression que ça crée actuellement dans le monde présent. ceux qui ont des enfants ou de petits-enfants, j'ai des enfants jeunes, et particulièrement lorsqu'ils étaient plus jeunes, nous voyagions beaucoup à ce moment-là avec eux, et un de nos soucis, c'était de les protéger. Nous demandions à Dieu de les protéger parce que les gens volent des enfants dans le monde actuel. On dit aux enfants, restez proches de nous, restez proches de vos parents. Les gens, parfois, volent, s'emparent de beaux petits-enfants innocents. Si vous avez des enfants, vous le savez, on fait attention. On s'arrange pour toujours les avoir sous nos yeux. Et s'ils échappent à nos regards, on s'inquiète. Est-ce qu'ils sont bien? Est-ce que quelqu'un s'est emparé d'eux? Dans un monde où il n'y aura plus de vol, il n'y aura plus de vol d'enfants. À Charlotte, l'an passé, nous avons fait du camping. Nous avons passé une fin de semaine sur une île. Nous étions les seules personnes sur cette île. Ça nous a donné un petit aperçu de ce que ce sera dans le monde à venir. Nous pouvions laisser toutes nos choses à la vue de tout le monde. Personne n'allait les prendre. Nous étions les seuls sur l'île. Et ça a donné beaucoup de liberté à tous ceux qui étaient là. Bien sûr, on surveillait nos enfants pour ne pas qu'ils se blessent, mais nous n'étions pas constamment en train de regarder autour si des étrangers s'approchaient pour s'emparer de nos enfants. Parce que les gens de Dieu ne font pas ça. Imaginez-vous comment la société de Dieu sera changée. Imaginez-vous comment ce sera plus facile d'élever des enfants dans le monde à venir. Et vous allez savoir dans le monde à venir que personne ne volera la virginité de votre adolescente. C'est un autre impact de l'application des lois de Dieu. Il n'y aura plus personne qui va voler le conjoint ou la conjointe d'un autre. Quand on pense à ça de cette façon-là, ça nous donne un aperçu du merveilleux monde à venir et de la sorte de société divine qu'il y aura une société tout à fait différente de celle dans laquelle nous vivons. Une société remplie de paix, d'abondance, de joie, de paix d'esprit. C'est ce que représente la fête des tabernacles. Voilà pourquoi Dieu voulait que chaque 7 ans, la loi soit lue en détail, parce que la loi va changer le monde, l'application de la loi va changer le monde au complet. Regardez le verset 8 maintenant, Exode 20. « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier et... » Le commandement d'observer le sabbat a 2 aspects. On voit souvent l'aspect de ne pas travailler, mais il nous faut comprendre l'autre aspect de ce commandement. Et ça aussi, en l'appliquant, ce sera différent dans le monde à venir. Le monde va changer. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Dieu nous commande de travailler 6 jours. Qu'il nous faut être productif 6 jours par semaine, faire des choses. On ne peut pas simplement rester assis et ne rien faire. Dieu veut que nous agissions, que nous faisions des choses. Imaginez-vous une société où tout le monde sera actif. Il n'y aura plus personne qui va essayer de profiter du système et de se faire vivre par les autres. Tous seront productifs. La Bible dit que ceux qui ne travaillent pas ne doivent pas manger. Si vous ne travaillez pas, vous ne mangez pas. Bien sûr, actuellement, il y a des conditions où c'est différent. Quelqu'un qui est handicapé ou dans une situation impossible. Non, dans le monde à venir, on va travailler 6 jours. Tout le monde va travailler 6 jours, va être occupé 6 jours. Pourquoi est-ce que Dieu demande qu'on travaille 6 jours? Dieu veut aussi qu'il y ait un contraste par là entre les 6 jours de la semaine et le jour que lui a sanctifié. Allons au verset 10 maintenant. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, le sabbat. Le jour de repos de ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Voyez-vous, il a mis à part, il a sanctifié un jour précis, le 7e jour de la semaine. Plusieurs aujourd'hui vont dire, ça n'a pas d'importance quel jour on observe. On peut observer n'importe quel jour de la semaine. Non, c'est Dieu qui a déterminé le temps, le 24 heures qu'il a mis à part pour l'adorer. C'est Dieu qui a déterminé ce temps spécial. C'est lui qui a dit « célébrer ce jour précis » et ça n'a jamais été changé. Il a dit « reposez-vous, ne travaillez pas ». Vous savez, le système de pension que nous avons aujourd'hui, c'est une bénédiction, bien sûr, mais ça peut pousser les gens à ne rien faire. Si vous êtes retiré et que vous ne travaillez pas, bien sûr, plusieurs qui sont retirés s'occupent. Parfois, ils vont prendre des emplois à temps partiel ou vont s'impliquer dans différents aspects de service autour d'eux. Mais si quelqu'un prend sa retraite et ne fait rien, ne fait que son étude biblique chaque jour et fait rien, ce n'est pas ce que Dieu veut. Comment le sabbat peut-il être différent? Si on fait ça chaque jour, le sabbat n'est pas différent. Il nous faut travailler 6 jours, être productif, être actif, servir, faire des choses. Et le 7e jour, à ce moment-là, est vraiment un jour de repos, un jour spécial, mis à part par Dieu. C'est un jour qui est mis à part pour tous. Avez-vous vu ce qu'on vient de voir? Pour les serviteurs aussi. Nous n'avons pas de serviteurs pour la plupart d'entre nous aujourd'hui, bien sûr, mais certains d'entre nous ont des entreprises et ont des employés. Ces gens-là font faire de l'argent à la compagnie. Si je suis patron, je ne peux pas me dire, moi je ne travaille pas, mais je fais travailler mes employés. Je les paie pour travailler ce jour-là. Et quand ils travaillent, ils me rapportent un profit pour moi. Ça, je ne peux pas faire ça. Ce n'est pas l'esprit du sabbat. Nos serviteurs ne doivent pas travailler. Qui d'autre ne doit pas travailler le jour du sabbat? Le bétail. Toute la terre doit arriver à une halte, à un repos, à un moment de répit. Ce sera tout à fait différent. Dans le monde actuel, tout bouge autour de nous le jour du sabbat. Les gens travaillent sur leur gazon. Vous entendez des scies à chaîne, vous entendez des tondeuses à gazon. Les gens vont au magasin, les gens travaillent sur leur maison. C'est un jour de grand magasinage et les stationnements de centres d'achat sont remplis le samedi. Les voitures circulent partout. Il y a même plus de circulation à certains endroits. Voyez-vous, dans le monde à venir, tous les magasins seront fermés le jour du sabbat. Tous les services seront fermés le jour du sabbat. Personne ne travaillera le jour du sabbat. Imaginez la paix, imaginez la quiétude, la tranquillité qu'il y aura dans ce monde-là. Ce sera totalement différent de ce que nous vivons aujourd'hui. J'ai grandi dans une ville, nous avons vécu dans une ville en Californie pendant 2 ans. C'était dirigé par les Adventistes du 7e jour. La plupart des gens là-bas étaient Adventistes et ils observent le sabbat, bien sûr. Alors, leurs écoles étaient fermées le jour du sabbat. Le vendredi, les écoles fermaient à midi. Ils comprenaient que c'est un jour de préparation. Tous les magasins, les stations d'essence, les banques fermaient à 14 heures l'après-midi, le vendredi, pour que les gens aient le temps d'aller chez eux et qu'ils aient le temps de se préparer pour le sabbat. Au quartier général, ici, le Dr Meredith a établi une politique ou un statut, si vous voulez, selon lequel les bureaux ferment plutôt le vendredi. Durant l'hiver, ça ferme à 15h30 pour que les gens aient le temps de se rendre chez eux, aient le temps de se préparer pour le sabbat. C'est une bénédiction. Imaginez-vous la société après le retour de Christ, quand toute la société vivra selon ces lois-là et que tout fermera en après-midi vendredi et que tout va devenir tranquille. Les gens vont cesser de travailler et là, les gens vont se préparer. Tout sera prêt. Les vêtements seront prêts, les souliers seront cirés, les repas seront préparés d'avance. Quand le soleil va se coucher, le vendredi soir, il n'y aura rien d'autre à faire. Vous allez vous reposer. Vous allez pouvoir aller prendre une marche. Vous allez pouvoir vous reposer. Vous allez pouvoir lire, étudier, enseigner les enfants. Il n'y aura pas toute cette suractivité que l'on voit autour. Voyez-vous, ce n'est pas le temps de commencer à ajouter des choses. Tout aura été fait d'avance, comme on fait maintenant. On fait les choses avant le sabbat parce qu'on s'est préparé de bonne façon le vendredi après-midi ou juste avant le sabbat pour entrer paisiblement dans le sabbat. Nous devons, nous, faire ça maintenant, mais toute la terre le fera dans le monde à venir. Pouvez-vous imaginer un peu avec ça à quel point le monde sera changé, sera différent? On vient de voir seulement deux commandements et on peut voir l'impact majeur que ça aura sur l'ensemble de la société. Allons à Lévitique 25. Qu'est-ce qu'il y aura encore de différent dans le monde à venir? Lévitique, chapitre 25. Lévitique, chapitre 25, nous allons lire à partir du verset 1. Donc, chaque septième année, la loi devait être lue à tout Israël. Dieu a établi un cycle de 50 ans qui débouche sur une année de jubilé. 7 fois 7 ans plus une année. Dans le monde à venir, toute la société respectera ce cycle-là. Quel que soit le moment où la personne sera appelée ou baptisée, les êtres humains seront tous sous le même cycle de temps. L'année 1 sera la même pour tous les êtres humains sur la face de la terre. Il faut que ce soit comme ça, parce qu'il faut que ça fonctionne pour l'ensemble de la société. Autrement, ça créerait de la division. Examinons ça. Lévitique 25 et le verset 1. « L'Éternel parla à Moïse sur le mont Sinaï et dit, « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, « Quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, la terre se reposera. Ce sera un sabbat en l'honneur de l'Éternel. » Le sabbat est un jour de repos. Et il leur a dit, « Vous laisserez la terre se reposer. » Regardez verset 3. « Pendant 6 années, tu ensemenceras ton champ. Pendant 6 années, tu travailleras ta vigne et tu en recueilleras le produit. Mais la 7e année sera un sabbat, un temps de repos pour la terre, un sabbat à l'honneur de l'Éternel. Tu n'ensemenceras point ton champ et tu ne tailleras point ta vigne. » Alors, pendant 6 ans, les gens vont pouvoir planter, mais la 7e année, on ne travaille pas, on ne plante pas autre chose. Voyez-vous, lorsqu'on laisse la terre se reposer comme ça, il y a des choses qui poussent d'elles-mêmes à ce moment-là, soit dans les jardins, soit dans les champs. Si vous avez une vigne, par exemple, et que vous ne lui touchez pas cette année, l'an prochain, il y aura des raisins encore sur la vigne. Même chose pour les arbres fruitiers. J'ai un manguier. J'aime ça. Si vous avez des pommiers ou si vous avez des pruniers, la 7e année, vous n'y touchez pas. Ça va porter du fruit. On ne taille pas les arbres. Verset 5, « Tu ne moissonneras point ce qui proviendra des grains tombés de ta moisson, et tu ne vendangeras point les raisins de ta vigne non taillée. Ce sera une année de repos pour la terre. » Ce que produira la terre pendant son sabbat vous servira de nourriture à toi, à ton serviteur et à ta servante, à ton mercenaire et à l'étranger qui demeure avec toi, à ton bétail et aux animaux qui sont dans ton pays. Tout son produit servira de nourriture. Alors ça ne se perdra pas, mais vous, en tant que propriétaire de cette terre, vous ne touchez pas à la terre, vous n'ensemencez pas, vous ne travaillez pas cette terre. Exode, maintenant, allons voir Exode, chapitre 23. Nous allons revenir à Lévitique 25 plus tard, mais allons à Exode, chapitre 23, verset 10. Pendant 6 ans, tu ensemenceras la terre et tu en recueilleras le produit, mais la 7e année, tu lui donneras du relâche et tu la laisseras en repos. Et les pauvres de ton peuple en jouiront et les bêtes des champs mangeront ce qui restera. Tu feras de même pour ta vigne et pour tes oliviers. Pendant 6 jours, tu feras ton ouvrage, mais le 7e jour, tu te reposeras, afin que ton bœuf et ton âne aient du repos, afin que le fils de ton esclave et l'étranger aient du repos. Alors voyez-vous, ce sabbat nous donne cette bénédiction incroyable. Tout ça est relié au commandement du sabbat, l'un des 10 grands commandements. C'est une extension de ce sabbat. Dieu donne ses sabbats pour que tous, même les animaux et même la terre, se reposent. Et la septième année, la terre va quand même produire, mais elle va se régénérer. L'année sabbatique, pour ainsi dire, c'est une année d'abondance pour les pauvres qui n'ont rien. Vous allez avoir des fruits dans vos arbres. Les gens vont avoir des fruits dans leurs arbres. Les pauvres pourront en profiter en abondance. Vous allez avoir des choses qui vont être en réserve depuis la récolte de la sixième année. Dieu vous en aura donné davantage de la sixième année. C'est ce qui va se passer dans le monde à venir. Les gens pauvres vont pouvoir venir et s'en nourrir. Ce qui ne servira pas à la nourriture ira au sol et vous allez envoyer les animaux au champ. Ils vont manger à satiété. Qu'est-ce qui va se passer aussi dans les champs? Ça fait partie du concept de l'année sabbatique de Dieu chaque 7 ans. Les animaux vont manger et bien sûr, ils ajoutent du fertilisant au sol. Et qu'est-ce qu'ils font en plus? C'est qu'ils se promènent, ils marchent bien sûr, les vaches, les brebis, les chèvres. Et ils labourent, pour ainsi dire, la terre, ils travaillent le sol, ils font pénétrer certains éléments. C'est un système de labourage à un certain degré. Alors les animaux vont manger, vont fertiliser le sol et vont aider les éléments nutritifs à pénétrer. Qu'est-ce qui va arriver la 8e année lorsque vous allez commencer à travailler la terre? Vous allez avoir beaucoup de résultats et beaucoup d'abondance parce qu'il y aura beaucoup d'éléments nutritifs qui auront été réintroduits dans le sol. Ce phénomène-là va se passer et on comprend pourquoi l'abondance augmentera. C'est formidable. Alors, les animaux ont un rôle à jouer là-dedans. On voit que les matières organiques vont retourner au sol et ça va ajouter plein d'éléments nutritifs. Alors, au début de la 8e année, vous allez avoir une terre très riche, une terre productive qui pourra produire énormément. La terre se sera renouvelée. On va cesser, dans le monde à venir, de tirer tout ce qu'on peut de la terre et de l'appauvrir. Ce sera le contraire. Nous aurons des fruits et des légumes qui seront riches en éléments nutritifs et des aliments beaucoup plus savoureux qu'actuellement. Ça fait partie du royaume de Dieu, frères et sœurs. Voilà ce qui vient, voilà ce qui approche. Les gens vont être propriétaires de terre aussi. Chacun pourra avoir des animaux, comme on a vu dans Zacharie. Les gens pourront avoir des chevaux avec des clochettes. On nous dit que pour un cheval ou une vache, vous devez avoir à peu près 3 acres de terrain pour nourrir une vache ou un cheval. Et il faudra produire du foin également. Et que dire si vous avez des vignes, que vous avez des arbres fruitiers qui prennent de la place? Moi, j'espère avoir un manguier. J'aime beaucoup les manguiers. Peut-être un arbre qui produit des avocats, peut-être des poiriers. Alors, on parle ici de terre, d'espace. La plupart des gens auront de la terre, seront propriétaires de parties de terre. Le cycle de 50 ans de Dieu va être mis en application et c'est en rapport avec l'agriculture. La société sera une société agraire. Et nous allons respecter les cycles lunaires qui sont reliés à l'agriculture et au jour saint de Dieu. Lorsqu'on regarde les statuts de Dieu, ces fêtes, dans cette optique-là, on voit à quel point la société du monde à venir sera différente de celle que nous voyons aujourd'hui. Allons à Exode 22, s'il vous plaît. Exode 22. Exode chapitre 22. Il y a d'autres choses qui vont se passer au cours de cette année de relâche. Les esclaves seront renvoyés libres. La 50e année de ce cycle, rappelez-vous que toute la société sera respectueuse du même cycle, donc ça arrivera au même moment pour tous. On voit que quelque chose de spécial va se passer au moment de ce jubilé. Cette année incroyable, Exode chapitre 22 et le verset 25. Si tu prêtes de l'argent à mon peuple, au pauvre qui est avec toi, Je vais parler ici un peu d'économie dans le royaume de Dieu. Encore une fois, c'est simplement un tout petit aperçu. L'économie dans le monde à venir sera tout à fait différente des pratiques économiques que nous voyons aujourd'hui. Aujourd'hui, les pratiques dans les prêts sont différentes. Si tu prêtes de l'argent à mon peuple, tu seras pas à son égard comme un créancier, tu n'exigeras de lui point d'intérêt. Bien sûr, Dieu permettra que de l'argent soit prêté, mais sans intérêt. Aujourd'hui, qu'est-ce qui arrive? Si je suis pauvre et que j'ai besoin de faire un emprunt, on me charge davantage d'intérêt qu'à quelqu'un qui est riche, parce que je suis considéré à risque en termes de crédit. Mais qu'est-ce que ça fait? C'est que ça garde les gens pauvres dans un cycle de pauvreté. Dieu a conçu un cycle qui s'achève avec la 50e année par son jubilé pour permettre aux gens devenus pauvres de repartir à zéro, à sortir de leur pauvreté et de leur misère. Aujourd'hui, la société est conçue pour garder les pauvres pauvres et de garder les riches riches. Dieu veut que tous soient dans l'abondance. Dans Jean 10:10, il est écrit que le Christ est venu pour que nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance. Continuons au verset 26. « Si tu prends en gage le vêtement de ton prochain, tu le lui rendras avant le coucher du soleil, car c'est sa seule couverture, c'est le vêtement dont il s'enveloppe le corps. Dans quoi coucherait-il? S'il crie à moi, je l'entendrai, car je suis miséricordieux. » Voyez-vous? Ça va jusque dans les détails. Tu ne maudiras point Dieu et tu ne maudiras point le prince de ton peuple. Il nous faudra prendre soin des pauvres. On ne doit pas prendre avantage des pauvres. La société actuelle tire avantage des pauvres. Dans le monde à venir, on ne le chargera pas d'intérêt comme c'est le cas aujourd'hui. Si quelqu'un dans le monde à venir, un être physique, a besoin d'emprunter, il pourra emprunter, mais sans intérêt, il va pouvoir repayer sa dette plus rapidement. Il va pouvoir sortir des dettes plus rapidement. Aux États-Unis, aujourd'hui, on peut avoir une hypothèque de 30 ans sur une maison. Qu'est-ce que ça fait? C'est que vous êtes en dette pendant 30 ans avant de payer votre maison. Lévitique chapitre 25, s'il vous plaît. Lévitique chapitre 25. Lisons davantage concernant ce jubilé merveilleux qui aura lieu à chaque 50e année. Lévitique 25, et commençons à lire au verset 8. Tu compteras 7 sabbats d'année, 7 fois 7 années, et les jours de ces 7 sabbats d'année feront 49 ans. Le 10e jour du 7e mois, tu feras retentir les sons éclatants de la trompette. Le jour des expiations, vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays. Le jour des expiations. Et vous sanctifierez la 50e année, vous publierez la liberté dans le pays, pour tous ses habitants, ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété et chacun de vous retournera dans sa famille. La 50e année sera pour vous le jubilé. Vous ne semerez point, vous ne moissonnerez point ce que les champs produiront d'eux-mêmes et vous ne vendangerez point la vigne non taillée. Car c'est le jubilé. Vous le regarderez comme une chose sainte. Vous mangerez le produit de vos champs. Voilà l'année du jubilé. Tout le monde va faire cela en même temps. Pensez à ça un instant. Une société davantage agricole, une société agraire, où toute la société s'arrête en même temps, la 50e année, ne laboure plus, ne taille plus les arbres fruitiers, et ainsi de suite. Qu'est-ce qui va se passer? Les animaux même auront une année de repos. Les êtres humains auront une année totale de repos. Et les gens pourront consacrer du temps à des choses auxquelles ils n'ont pas le temps régulièrement. Toute la société va goûter profondément ce temps de repos. Pourquoi ce sera tellement merveilleux? Parce que ce sera comme une année de vacances. Les gens auront accumulé de la récolte à partir de l'année précédente. Et ce sera comme une année de vacances payée. Les gens pourront s'activer à des choses qu'ils choisissent de faire. Une année vraiment spéciale. Vous savez, si les gens comprenaient ça et l'appliquaient aujourd'hui, personne ne rejetterait le fait de pouvoir avoir une année de vacances gratuites comme ça. Quel don merveilleux de Dieu! Continuons au verset 13. « Dans cette année de jubilé, chacun de vous retournera dans sa propriété. Si vous vendez à votre prochain ou si vous achetez de votre prochain, qu'aucun de vous ne trompe son frère. Tu achèteras de ton prochain en comptant les années depuis le jubilé et il te vendra en comptant les années. » Je vais l'expliquer un peu plus loin. Plus il y aura d'années, plus tu élèveras le prix. Et moins il y aura d'années, plus tu réduiras le prix. Car c'est le nombre de récoltes qu'il te vend. Aucun de vous ne trompera son prochain. Et tu craindras ton Dieu, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Allons maintenant au verset 23. Je vais vous expliquer ça dans quelques instants. Les terres ne se vendront point à perpétuité, voyez-vous? Car le pays est à moi, c'est Dieu qui parle. Car vous êtes chez moi comme des étrangers et comme habitants. Dans tout le pays dont vous aurez la possession, vous établirez le droit de rachat pour les terres. Verset 25. Si ton frère devient pauvre et vend une portion de sa propriété, celui qui a le droit de rachat, son plus proche parent, viendra et rachètera ce qu'a vendu son frère. Si un homme n'a personne qui ait le droit de rachat et qu'il se procure lui-même de quoi faire son rachat, il comptera les années depuis la vente, restituera le surplus à l'acquéreur et retournera dans sa propriété. Verset 28. S'il ne trouve pas de quoi lui faire cette restitution, ce qu'il a vendu restera entre les mains de l'acquéreur jusqu'à l'année du jubilé, jusqu'à l'année du jubilé. Au jubilé, il retournera dans sa propriété et l'acquéreur en sortira. Voyez-vous ce que ça signifie? Aujourd'hui, on réalise que, selon les chiffres, il y a 75 à 80 % des gens qui vivent dans des villes, non pas sur des terres, non pas sur des fermes. Environ 80 % du monde entier vit dans des cités, dans des villes. Pourquoi? Parce que des choses se sont passées. Ils ont été chassés de leur terre, ils ont dû vendre parce qu'ils n'avaient plus les moyens et ils sont partis vivre dans des villes, souvent dans des conditions exécrables. Et les terres, dans ce cas-là, ne pourront jamais revenir à leurs anciens propriétaires. Dieu a établi, comme on voit, un système qui va empêcher les gens de se procurer terre par-dessus terre appartenant à d'autres. Il n'y aura plus de vaste méga-ferme, si vous voulez. Dieu a établi un système qui va permettre aux terres de retourner aux familles originelles après 50 ans. Lorsque quelqu'un aura eu besoin de vendre sa parcelle de terre. La personne devant vendre sa ferme va compter les années jusqu'au jubilé et ils vont vendre leur terre selon le nombre d'années qu'il reste jusqu'à la 50e année. Quelle est la valeur des récoltes pendant les années qui restent? Et la personne qui va racheter sa ferme, supposons que la personne l'achète 5 ans plus tard, le prix de rachat sera diminué des 5 années de récolte que le nouveau propriétaire aura tiré de cette ferme ou de cette terre. La personne devenue pauvre et qui devra vendre sa terre comme ça, il y a une disposition dans la loi de Dieu aussi à l'effet qu'un parent a un droit prioritaire de racheter la ferme. Et celui qui s'est emparé de la ferme ne pourra pas refuser de la restituer. Supposons que vous rachetez votre terre à la 35e année, il reste 15 années, donc c'est la 15 années de récolte. Alors, il y aura un prorata d'établi dans la valeur. Donc, personne ne pourra ambitionner sur l'ancien propriétaire. Et si vous ne pouvez pas racheter votre terre et qu'il reste 15 années avant le jubilé, au moment du jubilé, la terre de la famille va revenir entre les mains de la famille. Voyez-vous à quel point c'est conçu pour aider les gens qui sont pauvres ou qui passent par des épreuves particulières? Dieu a pourvu à tout cela. Voilà ce que signifient les statuts de Dieu. Il y a même des statuts pour les possessions terriennes dans le monde à venir. Ça va changer toute la société de fond en comble. Si c'était mis en application aujourd'hui, ça changerait les choses. Une partie de ma famille était agriculteur. Ma famille était composée d'agriculteurs dans la Pennsylvanie. Et nous sommes retournés il y a quelques années visiter la ferme où ma grand-mère a grandi. Nous avons eu la permission d'aller visiter. C'était la terre de mes ancêtres. Ça fait plus de 40 ans que ma famille n'en est plus propriétaire et probablement ne la possédera plus. En marchant sur cette terre, je pensais à ma grand-mère qui a vécu là, qui a été élevée là. Son père a été élevé là. C'est parti maintenant, ce n'est plus à nous. Et ça ne reviendra plus à nous au cours de cette vie. Mais dans le royaume, dans le millénaire, ça ne se produira pas. Imaginez-vous les gens qui sont pris à vivre dans des villes surpeuplées maintenant, comment ce sera merveilleux de vivre à la campagne. Et s'il y a des erreurs de commises et qu'ils perdent leur terre pendant un certain temps, ils vont pouvoir la récupérer. Il n'y aura plus de grands propriétaires qui achètent à l'infini, pour ainsi dire. Tout le monde doit se pencher devant eux ou les servir ou devenir leur esclave, pour ainsi dire. Il n'y aura plus de grands investisseurs qui vont devenir propriétaires de nombreuses fermes. Non. Avec le cycle qui se termine par le jubilé, les terres vont revenir aux familles originelles. Les choses seront changées. Les familles vont garder leurs terres, leurs fermes. Vous allez être un être spirituel et vous allez pouvoir aller visiter ces gens-là, s'asseoir avec eux, aller pêcher avec eux dans un ruisseau, sachant que cette terre qui appartient à Dieu aura été donnée à ces gens-là, à cette famille-là, à jamais. Frères et sœurs, les lois de Dieu, ses statuts, ses ordonnances nous donnent un aperçu merveilleux du monde à venir. Ça nous aide à voir comment la vie sera dans le monde à venir. Il faut y penser, en rêver. Nous avons été appelés pour enseigner les gens dans le monde à venir, pour être heureux selon les lois de Dieu. Nous allons répandre la connaissance de ces lois dans le monde entier. Et un jour, ça va couvrir la terre comme les eaux couvrent la mer actuellement. Aujourd'hui, nous avons jeté un coup d'œil dans la société millénaire qui approche. Simplement en méditant sur quelques passages, quelques petits passages de la Bible. Mais ça nous a donné de voir des choses merveilleuses, les implications du fait d'appliquer ces lois dans le monde à venir. Les lois de Dieu sont les lois parfaites de la liberté. Ça nous donne la compréhension de ce que la société divine du millénium sera. La société méchante de Satan actuellement, sous les mensonges du petit Dieu de ce siècle qui est retenu captive, sera chose du passé. Les lois humaines seront remplacées par les lois parfaites de Dieu. Les gens vont commencer à vivre selon les lois parfaites de Dieu, par les lois de liberté, et les gens vont goûter les bienfaits de ça. Nous avons été appelés pour aider l'humanité à vivre selon ces lois. Frères et sœurs, lorsque le royaume sera établi sur la terre après la grande tribulation, les nations qui vont rester en vie à ce moment-là se verront enseigner les voies de Dieu et ses lois et ses statuts. Voilà le sens de notre appel. C'est là ce que nous ferons au cours du premier millénaire de ce qui va se passer par la suite. Nous avons vu un peu comment ce sera dans le royaume. Les lois de Dieu nous aident à comprendre comment la société sera. Voilà pourquoi Dieu commandait que la loi soit lue mot à mot chaque 7 ans à toute la nation d'Israël. Je vous encourage, frères et sœurs, durant la fête, à réfléchir, à méditer sur les lois de Dieu, sur ces fêtes. Pensez à l'impact que ça aura dans le monde à venir. Prenez du temps alors que vous prenez un repas avec des frères ou alors que vous allez marcher dans la nature. Imaginez-vous à quel point les lois de Dieu vont changer les choses dans le monde autour. Il y a 8 autres commandements que nous n'avons pas examinés. Et il y a d'autres statuts et ordonnances qui vont également changer le monde de fond en comble. Il nous faut voir à quel point ça va changer la société. Frères et sœurs, ne faites pas simplement lire les lois de Dieu et ses statuts. Prenez le temps d'y réfléchir et voyez leur impact. Regardez autour de vous dans le monde actuel. Il y a certaines choses dans le monde actuel qui fonctionnent parce qu'ils sont un peu selon les lois de Dieu. Mais regardez les aspects de la société actuelle qui sont contraires aux lois de Dieu et que nous devrons changer. Plus vous allez faire ça, plus le royaume va devenir réel à vos yeux. Vous allez être capable de le voir. Ce sera plus clair, plus que jamais auparavant. Et votre espoir deviendra plus réel que jamais. À travers les lois de Dieu, à travers ses statuts, nous pouvons commencer à voir directement dans la société divine du millénium. Bienvenue à la fête. Amusez-vous à cette fête. Réjouissez-vous. Méditez sur ces lois merveilleuses. Apprenez les voies de Dieu. Approfondissez et appréciez davantage la réalisation de ce qui approche, la vraie société divine du millénium.